En avril 1924, Rilke déclare, à propos de sa production poétique en langue française, dans une lettre adressée à Madame de Bonstetten. « Oui, j'aime écrire en français, quoique je ne sois jamais arrivé à écrire cette langue, qui plus que toute autre oblige à la perfection puisqu'elle la permet, sans incorrection et même sans d'insidieuses fautes. Une grande partie de ma correspondance se passe en français. J'ai pensé de cette façon dégager l'autre langue de presque tout emploi qui n'est pas d'art et d'en faire la pure matière de mon travail verbal. J'ai réussi pendant quelque temps, puis tout d'un coup, cet hiver, le français commençait à empiéter sur le terrain qu'il devait protéger. Un peu malgré moi, j'ai fini par remplir tout un cahier de vers français qui ne sont pas, vous le devinez, bien avouables. Hélas, pour dire tout, il faudrait savoir toutes les langues. » Bien que Rilke ait appris le français dès son très jeune âge, c'est seulement à la fin de sa vie, entre 1922 ou 23 et 26, qu'il atteint une maîtrise de cette langue qui lui permet d'en faire usage avec une certaine aisance, à des fins poétiques également. En effet, entre 1922 et 26, Rilke rédige quelques 400 poèmes en français, ce qui représente à cette époque-là un peu plus du 50% de sa production tardive poétique. Au début de son séjour en Valais, la langue française semble permettre à Rilke d'abord de dégager la langue allemande de toute préoccupation quotidienne, comme il était question dans la citation. Or, peu à peu, le français commence à empiéter sur le terrain qu'il devait protéger. C'est ainsi que le poète allemand commence à écrire des poèmes en français qui sont, selon ses dires, le résultat, et là je cite, d'une dictée spontanée et d'un travail réalisé lors de Nebenstunden, autrement dit d'heures marginales. Il précisera toutefois dans une lettre à Édouard Corrodi, célèbre critique zurichois, heures marginales, mais dans lesquelles ne s'en imposait pas moins un sentiment essentiel. Si la langue française lui est si chère, c'est parce qu'elle lui ouvre donc, dans la dernière partie de sa vie, de nouvelles possibilités. De nouvelles possibilités poétiques qui lui procurent ainsi un véritable sentiment de rajeunissement, hein, comme il le dit, je cite encore, « Enfin, s'il faut tout dire du plaisir de se retrouver jeune, presque jeune, dans l'usage d'une seconde langue dont on n'avait fait jusqu'alors qu'un usage passif ou pratique, et dont la crue, ainsi qu'on l'avait éprouvée jeune avec la sienne propre, se mettait à vous porter. » La potentialité d'une régénération poétique réside pour Rilke en particulier dans ce qu'une langue a d'intraduisible, comme il en a déjà été question, hein, c'est-à-dire dans ce qui est propre à une langue et discible uniquement dans celle-ci. Autrement dit, c'est le désir d'utiliser des termes français qui n'ont pas d'équivalent en allemand et viennent ainsi combler des manques de la langue allemande qui attire le poète. Rilke perçoit les différentes langues comme étant complémentaires et exprime déjà en 1922 le désir de pouvoir unir leurs avantages respectifs, autrement dit leurs différences et particularités, dans une seule langue que l'on pourrait ensuite écrire. Cette idée d'une langue unique comme conglomérat de toutes les langues renvoie à la conception du langage pur tel qu'il est défini par Walter Benjamin dans son essai bien connu sur la traduction publié en 1923. Selon Benjamin, la traduction, c'est-à-dire le passage d'une langue à l'autre, révèle un tiers, das Dritte, qu'il nomme langage pur, défini comme l'expression d'une essence spirituelle, plus ou moins facile à atteindre et à percevoir dans une langue ou une autre. Le travail de la traduction est donc envisagé comme une continuation de l'œuvre originale, et comme la création d'une relation intime entre les langues qui fait naître un plus, une valeur ajoutée. Or, il n'est justement pas question de traduction, dans un sens strict du terme, dans la poésie tardive bilingue de Rilke, qui, bien que lui-même traducteur, ne succombe pas à la tentation de s'auto-traduire. Au contraire, quand il fait étroitement dialoguer deux langues, comme c'est le cas des poèmes doubles, parfois appelés parallèles aussi en allemand « Doppeldichtung », qui présente deux versions linguistiques différentes, l'une allemande et l'autre française, d'un même poème, ou disons d'un poème sur le même sujet et avec le même titre. Il remarque explicitement que ce procédé n'est en rien typique de la traduction. Je cite le dernier extrait de lettre. « C'est pour moi étrange. Plusieurs fois, j'ai choisi le même thème en français et en allemand. Thème qui s'est ensuite développé, à ma grande surprise, différemment à partir de chaque langue. Ce qui est tout à fait contre la nature de la traduction. Des poèmes doubles au sens strict de la définition donnée par Rilke sont au nombre de 5 et ont été rédigés entre février 1924 et mars 1926. Pour certains, les deux versions linguistiques ont été écrites dans la même journée, l'une immédiatement à la suite de l'autre. Pour d'autres, une différence temporelle de plusieurs mois sépare les deux versions. Dans une lettre à sa correspondante Baladine Klosowska, Rilke insiste sur son intention à ne pas traduire, afin de prouver qu'écrivant en français, il ne pense pas en allemand et inversement. Le procédé d'écriture bilingue des poèmes doubles souligne ainsi sa conviction qu'il existe des particularités immanentes à une certaine langue et que ces particularités et différences d'une langue à l'autre sont précisément ce qui offre un accès nouveau au monde, comme le reconnaît déjà Jessica Wilke. Et cette nouvelle vision du monde influence donc la création poétique elle-même et l'écriture d'un même sujet. Les poèmes doubles se présentent donc comme une forme de dialogue et d'interaction réciproque entre poésie allemande et française, entre leurs traditions respectives et les différentes références intertextuelles induites par les langues. Il s'agit de versions ou de variations différentes et complémentaires d'un même sujet, dont le but n'est pas d'établir une quelconque hiérarchisation entre original et traduction, mais de souligner la spécificité de chaque langue et l'originalité de chaque version. Sur le modèle mystique et messianique du langage pur de Benjamin, mais dans une perspective entièrement poétique, les poèmes doubles représentent à mes yeux l'aspiration de Rilke à attribuer une dimension religieuse à sa poétique, dans la lignée, par exemple, des auteurs de la tradition poétique allemande qui cherchent à créer une nouvelle mythologie. Et c'est par un dialogue polyphonique entre les deux volets linguistiques de sa poésie que Rilke semble le réaliser. La complémentarité de ce dialogue révèle le désir donc de dépasser les frontières linguistiques et poétiques, ainsi qu'une certaine aspiration à une totalité, peut-être mythique. J'aimerais maintenant étudier deux poèmes doubles présentant des dieux et motifs mythologiques parmi les 5 poèmes doubles qui sont à mes yeux également tous caractérisés par une forme de pensée mythique ou archaïque. L'analyse des figures mythologico-divines, de leur constitution et représentation, de leur rapport à une tradition poétique particulière, me servira donc d'instrument herméneutique de comparaison entre les deux versions linguistiques afin de révéler les éléments qui déterminent ou influencent le développement de chaque poème, les spécificités des deux poésies respectives et la manière dont celles-ci dialoguent. Pour ce faire, je vais me poser la question de savoir dans quelle mesure le poème et plus particulièrement les divinités sont déterminés par la langue employée, sa sonorité, une tradition mythologique et poétique se rapportant à la poésie allemande ou française. Donc, prenons le premier poème, Das Füllhorn. Le premier poème double de Rilke, dont les versions allemandes et françaises ont été écrites le 11 février 1924 à Musau, l'une à la suite de l'autre, s'intitule Das Füllhorn. Le titre des deux versions Das Füllhorn et l'équivalent français Corne d'abondance présente un attribut mythologique qui peut être associé à la déesse italique de la fortune et du heureux hasard, Fortuna, ou à la déesse des fleurs, également célébrée en Italie, Flore ou Flora. Bien qu'elle ne soit pas identifiée par un nom précis et déterminé, la déesse qui apparaît dans la version allemande du poème double au vers 2 et 13 rappelle à bien des égards une divinité de la tradition classique antique qualifiée par une puissance, une toute-puissance et une supériorité évidente. Comme la déesse romaine de la fortune, la déesse de Füllhorn est qualifiée par une certaine duplicité également. Elle est celle qui, légère, porte biens et abondance aux hommes, mais elle est également celle qui menace par sa supériorité et la profusion démesurée de ses dons. Ces caractéristiques sont déjà contenues dans la description de la corne d'abondance dans les deux premières strophes. Je lis la version allemande et la version française, les deux premières strophes. Schwung und Form des gebensten Gefäßes, an der Göttin Schulter angelehnt, unsere Fassung immer ungemäßes, doch von unserem Sehnen ausgedehnt. In der Tiefe seiner Windung fasst es, alle Reife die Gestalt und Wucht, und das Herz des allerreinsten Gastes wäre Form dem Ausguss solcher Frucht. Et en français, vous avez la traduction juste à côté, qui n'est pas celle de Rilke. Hein. Élan et forme du vase le plus prodigue, appuyé contre l'épaule de la déesse, hors de proportion avec notre contenance, mais qu'agrandit toujours notre désir. Dans le profond de sa courbure, elle porte, de toute chose mûre, la figure et le poids. Seul le cœur de l'hôte le plus pur serait forme pour la couler de tous ses fruits. Le vocabulaire abstrait, les métaphores et le chiasme sémantique « Schwung und Form, Gestalt und Wucht » indiquent que l'accès à la corne d'abondance est limité à la forme et à l'aspect extérieur de celle-ci. Ainsi, le poème souligne l'inaccessibilité des dons, censés être contenus dans la corne d'abondance, mais qui restent invisibles à l'exception de quelques fleurs à la surface de la corne. Et ceci est visible dans la troisième strophe. Cette inaccessibilité des dons renvoie à celle de la déesse en tant que dispensatrice des biens. Par sa toute-puissance, ainsi que par son rapport ambigu aux hommes, elle fait référence à une tradition des divinités mythologiques telle qu'on en trouve dans la tradition poétique allemande classique et romantique. Les dieux sont source de menaces pour l'être humain qui encourt un véritable danger dans le cas d'une trop grande proximité. Donc une distance minimale est nécessaire. En même temps, les hommes aspirent paradoxalement à une telle proximité divine. C'est le Götterferne et Götternähe, typiquement de la tradition romantique allemande. Donc le rapport entre l'homme ou le poète et une divinité mythologique traditionnelle est donc marqué également chez Rilke par une tension irréductible. Ce lieu commun de la représentation des divinités mythologiques renvoie dans Das Füllhorn de manière allusive au chant des parcs de l'Iphigénie de Goethe et à la célèbre hymne de Hölderlin, comme quant au jour de fête. Une référence intertextuelle à ces deux poèmes est visible dans Das Füllhorn, plus précisément à l'endroit où le poète, également l'être humain, est représenté par une métaphore synecdochique en tant que potentiel récepteur des dons divins. Au vers 7 et 8, que je cite à nouveau, « Seul le cœur de l'hôte le plus pur serait forme pour la couler de tous ses fruits. » La description métaphorique du cœur de l'homme comme un moule, habituellement rempli par l'action de moulage d'une sculpture ou de la fonte d'une cloche, insiste ici à nouveau sur la forme et l'aspect extérieur. Le mode du conditionnel souligne que l'homme n'est qu'un potentiel contenant, et qu'une effective distribution des présents, de même qu'un rapprochement du divin, est impossible, ou du moins n'est pas souhaité, ne semble pas souhaité ici. Chez Rilke prédomine donc l'idée d'une nécessité et d'une nécessaire distance par rapport au divin, ce qui signale qu'il tient compte de la mise en garde à l'égard des hommes telle qu'elle est exprimée dans le chant des parcs. Je cite un extrait que vous trouvez à la page 3, je cite en français, hein. Que la race humaine redoute les dieux. Leurs mains éternelles tiennent la puissance, où comme il leur plaît, ils peuvent puiser. Que celui qu'ils élèvent les craigne doublement. Vienne la discorde, les hôtes que chassent l'insulte et la honte tout à coup s'écroulent. L'allusion à ce poème classique est évidente dans la mesure où les hommes sont qualifiés d'hôtes chez Goethe, comme le poète dans Das Füllhorn, hein, le cœur de l'hôte le plus pur. La référence à la tradition lyrique allemande est encore complétée par une allusion à l'expression « cœur pur » utilisée cette fois-ci par Hölderlin dans son hymne très connu pour qualifier le poète qui reçoit les dons divins. Là, vous avez également un extrait du poème à la page 3. Je cite la traduction qui est un peu malheureuse en français, mais voilà, c'est celle que j'ai trouvée. Mais il nous revient sous les orages de Dieu au poète, la tête dénudée de nous tenir, du Père la foudre elle-même d'une propre main de la saisir, et au peuple dans le champ voilé de tendre le don céleste. Car pour peu que nous soyons de cœur pur, comme des enfants, nous, que sans faute soient nos mains, du Père la foudre la plus pure ne le roussit pas. Contrairement au poème de Rilke, le poète apparaît ici comme un être idéal qui peut encore s'approcher d'un Dieu et recevoir les dons et l'inspiration divine, dans la mesure où il le fait dans une disposition adéquate, autrement dit en craignant l'absence de distance inconvenante et toute supériorité arrogante. Ceci, comme le dit si bien le professeur Böschenstein, d'ailleurs ici présent, dans son article « Frucht des Gewitters, Hölderlins Dionysos als Gott der Revolution ». L'expression « cœur de l'hôte le plus pur » de Rilke représente donc une sorte de citation-collage, quelque peu modifiée de la description que font à la fois Goethe et Hölderlin des hommes et respectivement du poète faisant face aux dieux. Rilke s'inspire ainsi pour la constitution et la représentation de sa déesse, de Topoi, propre à la tradition poétique allemande, qui semble donc ici être inhérente à la langue poétique allemande elle-même.
Ein bisschen langsamer bitte. Es ist wunderbar, aber es ist...
Okay. Or, tout en faisant référence à un modèle classique de la mythologie, Rilke s'en distance également. À mon avis, Das Füllhorn propose une remise en question du rapport au divin, ainsi que de sa représentation mythologique, encore présente dans la poésie classique. Donc, cette représentation classique de la mythologie, ce sont des dieux clairement identifiables et reconnaissables, la plupart du temps nommés et pleinement présents. Une critique de la forme traditionnelle de cette mythologie est esquissée dans la mise en évidence de l'absolue supériorité d'une déesse, mais d'une déesse qui retient entièrement ses biens. À la question de savoir si la déesse déversera sa manne sur les cœurs, donc sur les poètes, c'est une question qu'on trouve dans la quatrième strophe, la dernière strophe du poème répond, je cite en allemand puis en français, Nein, sie steht in Überlebensgröße hoch mit ihrem Horn voll Übermaß. Nur das Wasser untern geht, als flöße es ihr geben in Gewächs und Gras. En français, non, elle se tient là, grandeur sur nature, haute avec sa corne remplie de démesure. Seule l'eau coule en bas, comme pour flotter son offrande dans l'herbe. Cette dernière image, celle du transport par flottage, peut être comprise métaphoriquement comme l'expression d'un blocage au niveau de l'écriture, qui fait écho au blocage de la dispensation des dons divins de la part de la déesse. Le conditionnel également, ainsi que la formule « seule l'eau coule », l'eau ne charrie donc rien, hein. Donc ces trois éléments, le conditionnel, la formule « seule l'eau coule », et puis ce blocage au niveau de l'image illustre bien l'absence d'une véritable dispensation des dons, qui coïncide d'ailleurs avec l'interruption du poème, avec la fin. D'ailleurs, une telle lecture mettant à jour une réflexion sur l'écriture est justifiée à la fois par le fait que ce poème est dédicacé à Hofmannsthal, donc comporte forcément une certaine mise en abîme de l'écriture poétique, et par le fait que le récipient Das Gefäß est une métaphore pour le poème lui-même, qui transcende ce qui est terrestre. Un tel échec de la dispensation des dons divins exprime donc la nécessité pour le poète de transformer des formes traditionnelles et mythologiques du divin pour accéder encore à une forme d'inspiration divine. L'aspiration de Rilke à un autre type de représentation du divin, transparaît à mon avis dans une certaine remise en question du langage poétique lui-même, c'est-à-dire indirectement l'allemand, vu que c'est en allemand qu'il écrit ce poème. C'est dans la troisième strophe, dont les images et métaphores sont particulièrement abstraites et complexes, que l'on peut identifier une critique du langage poétique faisant certainement référence à la crise du langage évoquée dans la lettre de Lord Chandos de Hofmannsthal, qui parle de l'incapacité de la langue à exprimer des sentiments ou des idées abstraites. Je cite la troisième strophe de Das Füllhorn. Oben auf der Blüten leichte Schenkung, noch von ihrer ersten Frühe kühl, alle kaum beweisbar wie Erdenkung und vorhanden wie Gefühl. Et en français, tout en haut, le don léger des fleurs, encore fraîches et de leur première aube, toute guère démontrable, comme l'idée, et présente comme le sentir. Les deux comparaisons mettent en doute la présence réelle des fleurs, en tout cas à un niveau matériel, hein, de même que l'aptitude effective à représenter, propre à la langue, en particulier au langage poétique, et ceci se fait en écho à la crise du langage de Lord Chandos. D'ailleurs, les points de suspension qui raccourcissent le mètre du vers 12, et c'est le seul moment dans le poème où cela se produit, indiquent une suspension de la pensée et de l'écriture. On a donc l'image d'une langue quelque peu limitée ou problématique. C'est pourquoi on peut légitimement affirmer que Rilke, à l'image de Lord Chandos, aspire à la régénération d'un langage usé, d'ailleurs citation tirée des lettres hein, de Hofmannsthal, et ceci afin de renouveler la représentation de la mythologie, en partie déterminée par la langue et la tradition poétique qu'elle véhicule, ceci dans le but de renouveler également sa propre poésie, la poésie de Rilke. Le passage à une autre langue, le français, offre dès lors une véritable alternative et opportunité à Rilke dans l'optique d'un renouvellement de son écriture poétique et en l'occurrence des possibilités de représentation du divin et de la mythologie. L'ordre de production des deux versions linguistiques du poème double est aujourd'hui encore controversé, mais je défends l'hypothèse selon laquelle la version française a été rédigée directement après la version allemande. Quoi qu'il en soit, le poème français intitulé « Cornes d'abondance », donc traduction vraiment extrêmement fidèle de Füllhorn, offre d'autres possibilités dans le traitement du thème. Donc on a une sorte de même, mais autrement. Je vous lis l'intégralité du poème français « Cornes d'abondance » de Rilke. « Ô belle corne doux, penchée vers notre attente, qui n'êtes qu'une pente en calice, déversez-vous. Des fleurs, des fleurs, des fleurs, qui en tombant font un lit aux bondissantes rondeurs de tant de fruits accomplis. Et tout cela sans fin nous attaque et s'élance pour punir l'insuffisance de notre cœur déjà plein. Aux cornes trop vastes qu'elles, miracle par vous se donne, aux corps de chasse qui sonnent des choses au souffle du ciel. » Dès le premier regard, il est frappant de constater que les images évoquées sont plus simples, hein, moins abstraites, et que le poète joue avec la musicalité de la langue. En ce qui concerne la mythologie, la corne d'abondance est transformée complètement en figure allégorique à laquelle s'adresse le poète et cette corne d'abondance renvoie que de manière tout à fait indirecte à une potentielle divinité de la mythologie classique. La divinité n'est plus visible dans le texte, enfin en tout cas plus en tant que divinité nommée. Par ailleurs, la distribution des dons et présents contenus dans la corne d'abondance est désormais rendue possible, bien que demeure un certain danger également de surabondance dans la troisième strophe. L'évocation d'une menace et d'une forme d'agressivité rappelle la déesse de Füllhorn, pourtant la version française ne présente plus cette divinité visible dans toute sa puissance. Car on a désormais affaire à une forme plus abstraite de présence divine, abstraite au sens malarméen du terme, je dirais, c'est-à-dire liée à la suggestion, qui ne constitue pas un refus radical de la figuration et ne mène pas non plus à un art non figuratif, ce qui explique que bien qu'on ait une image plus abstraite de la déesse, ou de la divinité, disons ça comme ça, la langue est plus concrète. C'est dans les fruits, symbole de la nature du verger, qu'on peut identifier une forme de divinité, elle-même révélée grâce à deux poèmes auxquels Corne d'abondance fait référence. La description des fruits dans la deuxième strophe du poème renvoie premièrement au quatrième poème du petit cycle Verger de Rilke, qui fait partie du recueil de poèmes également intitulé Verger. Vous trouvez ce petit poème à la fin également, à la troisième page. Et dans la première strophe, on voit des dieux qui rappellent des dieux mythologiques. Je cite. De leur grâce, que font-ils tous ces dieux hors d'usage qu'un passé rustique engage à être sage et puéril ? La réponse est la suivante dans la deuxième strophe. Ils arrondissent les fruits, occupation divine. De la troisième strophe de ce même poème, il ressort également qu'il s'agit de dieux abandonnés et inoccupés. Et ces dieux contribuent néanmoins à la maturation et au perfectionnement des fruits. Comme le dit encore une fois le professeur Böschenstein, si bien dans son excellent article « Divinités antiques dans la poésie française » de Rilke, là je cite, « Les dieux du verger sont, malgré leur abandon, ou même en raison de leur abandon, les garants de l'abondance qui en découle. » Cette complémentarité de l'abandon et de l'abondance est propre à l'essence de ces dieux qui apparaissent comme des dieux désormais présent-absent, et diffère ainsi fondamentalement de la déesse de la version allemande du poème. Dans la version française, ce sont bien les dieux cosmiques qui sont implicitement présents. Rilke pousse l'abstraction encore un peu plus loin jusqu'à les rendre complètement invisibles, c'est-à-dire fondus dans la nature et uniquement suggérés par elle. Et suggérés par référence intertextuelle en plus. Or, si on regarde bien les mots utilisés dans « cornes d'abondance », il apparaît clairement que les dieux sont présents. En effet, les fruits accomplis du vers 8, caractérisés par de bondissantes rondeurs du vers 7, font directement écho au verbe « arrondir » que l'on trouve dans verger 4, et qui symbolise ce processus de maturation réalisé par les dieux. Les différents éléments qui me permettent d'indiquer qu'on a bien ici une forme de divinité, renvoient également tous à Paul Valéry, entre autres à son poème « Palme », qui représente également l'abondance permise par le travail d'une force divine abstraite. Il est question chez Paul Valéry, vous avez également juste l'extrait hein, auquel je fais référence tout à la fin, je ne vais pas le lire, mais il y a question ici de « divine durée ». Et c'est cette divine durée qui mène ou qui mène à maturation la palme hein, et l'abondance de la nature. Cet auteur français contemporain Rilke est non seulement un modèle pour une nouvelle représentation de la mythologie et du divin, mais c'est également à lui que Rilke emprunte les termes complémentaires d'abondance et abandon. Toutefois, l'association étroite entre cette complémentarité et la nouvelle constitution ou essence du divin est à mon avis tout à fait propre au poème français de Rilke. La nouvelle constitution du divin et de la mythologie dans la version française du poème double n'est pas seulement influencée par la poésie de Valéry, mais elle est également inspirée par la musicalité de la langue appréciée par le Rilke. En plus de jouer avec les termes complémentaires abondance et abandon à un niveau sémantique, Rilke exploite les sonorités elles-mêmes complémentaires de ces concepts pour souligner par un écho sonore la présence-absence des dieux dans les fruits de son poème « Cornes d'abondance ». Dans la deuxième strophe de ce poème, l'assonance des voyelles nasales « en » et « on hein, », qui sont des phonèmes typiques de la langue française, prouve que les dieux abandonnés sont présents dans « tant de fruits accomplis ». C'est effectivement la seule phrase de la strophe caractérisé par une importante euphonie qui présente un ordre tout à fait identique des phonèmes « en » et « on » que l'on trouve dans le mot « abandon hein, » qui qualifie vraiment les dieux dans verger 4. Un autre jeu avec la sonorité de la langue démontre les bienfaits de la nouvelle qualité moins présente, plus abstraite, du divin pour la création poétique et détermine le développement du poème, sa fin, tout à fait différemment. Je cite la dernière strophe du poème « Cornes d'abondance » encore. « Ô cornes trop vastes, quel miracle par vous se donne, ô corps de chasse qui sonne des choses au souffle du ciel. » La légère altération phonétique du mot « corne » produit une modification significative au niveau sémantique qui va déterminer la conclusion du poème. En effet, l'évocation du corps de chasse est tout à fait absente dans la version allemande du poème double, même si le terme « horn » est polysémique et contient ces deux mêmes significations, hein, celle du contenant et celle de l'instrument de musique. Mais c'est le passage d'une langue à l'autre et l'importance particulière de la dimension sonore du français qui semble être nécessaire pour révéler un sens latent contenu dans le terme allemand. Donc le sens de corps, corps de chasse. À un niveau sémantique, le surgissement du corps semble être rendu possible en raison de la réduction de la mythologie classique et du divin, qui ainsi réduit, ne menace pas le poète au point d'empêcher de lui transmettre toute inspiration divine. Car le corps de chasse est bien une métaphore de l'inspiration divine et du champ poétique, aussi bien dans la poésie française qu'allemande d'ailleurs. Ainsi, contrairement à la version allemande, on a bien une inspiration qui est transmise au poème, au poète, le corps de chasse étant qualifié par un souffle divin, si on comprend au souffle du ciel comme complément d'objet indirect du corps de chasse. Ce qui n'est pas absolument évident à cause de la syntaxe, hein, des virgules un peu particulières là, de Rilke. Le poète semble toujours avoir besoin donc d'être inspiré par une forme divine, mais seule une représentation du divin qui se détache en partie d'un modèle de représentation mythologique classique, donc qui se détache aussi d'un rapport très fort de transcendance au sens classique, semble pouvoir l'inspirer encore. Cette nouvelle forme du divin indique, selon moi, que dans les poèmes en français, on a une forme divine plus proche de l'immanence, qui permet donc de s'approcher du poète, et de célébrer avant tout le « diesseits », l'ici-bas ou l'ici, en opposition au « jenseits », à l'au-delà. Et ceci se fait donc grâce à l'inspiration dispensée par des dieux désormais cosmiques. Cet exemple est la preuve que le français, l'importance attribuée à sa sonorité et musicalité, ainsi que les références que cette langue instaure par rapport à la poésie française contemporaine, développe d'autres possibilités poétiques. La version française est complémentaire à l'allemande, dans la mesure où elle donne une autre forme à la mythologie ou au divin, élément qui est justement problématisé dans la version allemande. Donc on a l'impression d'une prolongation qui permet de résoudre certaines choses problématisées dans le poème allemand. Ainsi, Rilke, en plus de créer deux versions linguistiques sur un même sujet, instaure un véritable dialogue entre elles. C'est également le cas en ce qui concerne le dernier poème double de Rilke intitulé « Gong », dont la version allemande a été écrite en novembre 1925 et la version française en mars 1926. Dans les deux sont évoqués des dieux qui rappellent plus ou moins les dieux cosmiques invisibles des poèmes français, dans la mesure où leur essence et leur représentation sont qualifiées par une certaine abstraction. Ce ne sont plus des dieux qui rappellent même une divinité particulière. Plus encore que dans les poèmes doubles précédents, l'image et la représentation des dieux dans ces deux versions sont étroitement complémentaires. C'est la raison pour laquelle je vais étudier ces deux versions maintenant plus parallèlement, me référant avant tout au passage qui se rapporte directement aux dieux. Il est frappant de constater que ces derniers, donc les dieux, apparaissent une fois dans une métaphore et une fois dans une comparaison qui participent de la description du son produit par le gong et font toutes deux allusion au domaine de la chimie et de la physique, donc dans les deux poèmes, hein, en français et en allemand. Dans le poème allemand, marqué par une dimension mythologico, voire mythico-divine importante, le son gong est comparé métaphoriquement dans une des nombreuses appositions nominales, à une solution pleine de dieux difficilement soluble. Je cite la première strophe du poème allemand. « Nicht mehr für Ohren klang, der wie ein tieferes Ohr uns scheinbar hörende hört, Umkehr der Räume, Entwurf innerer Welten im Freien, Tempel vor ihrer Geburt, Lösung gesättigt mit schwer löslichen Göttern, Gong. » La même strophe en français, donc de la traduction. Plus pour l'oreille, son. qui, comme une oreille plus profonde, nous qui semblons entendre, écoute. Retournement des espaces, projets, de mondes intérieurs à l'air libre, temples avant leur naissance, solutions saturées de dieux, lourds à dissoudre. Gong. Les dieux, dit Goethe, représentent là le composant solide, le soluté, dans une solution par définition liquide. La saturation de la solution par les dieux indique leur dissolution difficile, voire impossible, mais apparemment quand même souhaitée. Cette image de cristallisation des dieux dans une solution peut d'une part être interprétée comme l'expression de la survivance des dieux, c'est-à-dire d'une certaine tradition mythologique, et cette survivance a lieu dans le son, métaphoriquement parlant, la poésie, le chant du poète. D'autre part, cette image exprime le désir de transformer les dieux trop présents, ou devenus trop présents. D'ailleurs, on trouve dans la dernière strophe du poème, que je ne vais pas lire en détail, mais que vous pourrez ensuite lire vous-même, une forme de transformation d'éléments mythologiques liés à un culte religieux qui tend vers une certaine abstraction. Il est question d'une fête devenue incompréhensible, de vin qu'on trouve dans des cultes ou qu'on associe à un culte dionysiaque ou chrétien qui n'est plus que destiné à une bouche invisible et d'une colonne portante d'un temple secouée par une tempête, donc réduit à rien. Cette transformation, qui est à comprendre là comme la verwandlung, hein, au sens rilkéen du terme, augmente bien une certaine abstraction, qui n'est cependant pas la même que dans la transformation des dieux des poèmes en français. Les éléments mythologiques connus sont déconstruits et transformés dans une sorte d'invisible, ne renvoyant plus à rien, donc plus à un culte concret et identifiable. Toutefois, ils ne disparaissent pas, les dieux, dans la première strophe, ni ne se fondent dans une sorte d'immanence terrestre, ni ne contribuent à une célébration de l'ici. C'est donc à nouveau dans le pendant français que Rilke parvient à attribuer une consistance et une présence différentes aux figures divines, qui, à mon avis, permettent cette célébration de l'ici, de l'immanent et du perceptible. La modification des dieux dans le gong français se développe dans la droite ligne de l'image des dieux de la version allemande. Rilke utilise dans la version française également une métaphore tirée du domaine de la chimie. Je cite la strophe sous le point 2 de Gong en français, donc la deuxième partie du poème. « Comme si l'on était en train de fondre des dieux d'airain pour y ajouter encore des dieux massifs tout en or qui en bourdonnant se défont. » Et de tous ces dieux qui s'en vont, sans de flambants métaux, s'élèvent d'ultimes sons royaux. C'est par fonte que les dieux sont dissous. Ce processus chimique, qui fait écho à la solution saturée de la version allemande, semble ici également déterminé par les possibilités qu'offre le système phonétique et sonore de la langue française, donc comme dans Corne d'abondance. Alors qu'en allemand, c'est le phonème « ge » qui instaure une parenté étroite entre le sujet du poème et les dieux, Gong et Goethe, en français, le poète insiste bien sur la vocale nasale du mot « gong », à savoir le « on », à nouveau, que l'on trouve dans les deux mots-clés du poème, « gong » et « son ». En outre, les trois verbes qui décrivent le processus de dissolution, de disparition des dieux, possèdent ce phonème. Il s'agit du verbe « fondre », se défont et s'en vont. Il apparaît donc une fois de plus que la matérialité, en l'occurrence la phonétique et la musicalité de la langue française, déterminent du moins en partie la constitution des dieux de la poésie française de Rilke. Cette fois, la tendance à faire disparaître les dieux est également inspirée par une référence à un motif typique des dieux mythologiques dans la poésie allemande et classique romantique. Classique et romantique, pardon. Il s'agit du motif de la disparition des dieux, en allemand le Götteruntergang, qui constitue un lieu commun dans la poésie allemande, marqué par le retour des dieux de la mythologie antique, Götterrückkehr, et c'est un motif qu'on trouve de Friedrich Schiller à Heinrich Heine, un peu varié. En parlant de dieux qui s'en vont, Rilke varie donc la figure de la disparition des dieux grecs, que l'on trouve par exemple évoqué dans la célèbre élégie « Les dieux de la Grèce » de Schiller. Celui-ci évoque, tout en faisant l'apologie des dieux grecs, la disparition des dieux de la sphère de la vie quotidienne et terrestre, soulignant toutefois qu'ils survivent bien dans la sphère poétique. Ce motif exprime la conscience de la perte de l'âge d'or de l'Antiquité et du remplacement des dieux de la mythologie par le divin, tel qu'il est compris dans le christianisme. Je cite le petit extrait que vous avez de Schiller, donc les dieux de la Grèce, je le cite en français. « Désormais, sans emploi, sont retournés chez eux, au pays des poètes, les dieux inutiles à un univers qui, émancipé de la lisière qu'ils lui imposaient, se maintient par son propre balancement. Oui, ils s'en sont allés, et tout ce qui était beau, tout ce qui était noble, ils l'ont emporté avec eux. » En transformant profondément ce modèle, en le variant d'une certaine manière, Rilke souligne qu'il n'est plus du tout question de faire l'apologie de ces divinités et que désormais c'est la persistance des dieux dans la sphère poétique qui est problématisée. Donc il semble chercher une conception des dieux qui soit différente dans la poésie elle-même. Bien qu'on ait affaire dans les deux versions de Gong à des dieux caractérisés par une certaine abstraction, c'est bien le poème français qui offre la possibilité d'une véritable abstraction, cette fois-ci de la présence divine, hein, c'est-à-dire qui donne une autre forme aux dieux et ainsi à la conception de la mythologie. Dans la version française de Gong, les dieux sont donc également rendus présents-absents. Dans la mesure où par la fonte, ou la fusion des métaux, ils se répandent effectivement dans le cosmos, symbolisés ici par les sons dans lesquels ils se transforment dans la strophe 2. Et ensuite, dans la troisième partie du poème, il se trouve de manière tout à fait implicite et métaphorique dans le son et dans la nature. Donc je cite cette fois la troisième partie du poème Gong français. « Arbres d'airain qui dans l'ouïe font mûrir les fruits ronds de leur sonore saison. » En effet, la présence-absence des dieux est rendue manifeste par la métaphore de la maturation à nouveau, des fruits ronds de sonore saison, qui fait donc clairement référence à nouveau au processus de maturation de cornes d'abondance ou bien de verger 4. Et ces dieux, donc transformés dans cette dernière strophe ou dans ce dernier fragment, sont également rendus visibles par le transfert de l'adjectif airain, qui qualifie les dieux dans la strophe 2 ou dans la partie 2 du poème. Et ensuite, dans la partie 3, on a les arbres aux fruits sonores qui sont qualifiés d'arbres d'airain. En conclusion, il apparaît que la version française de Gong permet bien un type de transformation des dieux et de leur présence qui rappelle des dieux présents absents de cornes d'abondance. Bien que la version allemande de Gong propose des dieux dont la représentation est plus abstraite que dans Das Fühlhorn, et qui exprime clairement un désir de dissolution, on n'a pas une transformation identique à celle qui a lieu dans les poèmes français. Certains éléments mythologiques du poème Gong en allemand sont transformés du visible à l'invisible, comme déjà mentionné, ce qui vient renforcer la tendance des poèmes allemands, comme par exemple les sonnets à Orphée. Hein, on a ce même type de transformation. Or, en français, au moins dans Cornes d'abondance et Gong, la représentation des dieux semble illustrer une transformation à la fois similaire mais aussi inverse et donc complémentaire, à savoir celle de l'invisible en visible. En effet, les dieux qui sont l'invisible par excellence, ici incarnés dans les poèmes, sont fondus complètement dans la nature du verger et ainsi transformés dans les poèmes français, malgré ou bien justement grâce à leur disparition, en quelque chose de visible, c'est-à-dire en quelque chose de perceptible par les sens et d'immanent, les fruits ou les sons du gong. Cette transformation met, à mon avis, en évidence un geste poétique d'une importance toute particulière pour la poésie française rilkéenne, celui de la célébration de l'ici, favorisée par une forme divine immanente qui s'oppose à l'au-delà, le jenseits, nécessairement accessible par une forme de transcendance. Cette conclusion vient renforcer l'hypothèse exprimée auparavant que les dieux présents-absents symbolisent désormais autre chose qu'un lien transcendantal avec un au-delà. On peut donc se demander si on aurait là une ébauche d'une nouvelle forme de mythologie, au sens de religion poétique presque, et qui serait une forme de l'immanence et de la terre. La langue française offre bien un moyen de renouveler l'écriture poétique, ainsi que la conception mythologique et divine, qui acquiert un degré d'abstraction augmenté, comme ils disparaissent, donc comme les dieux disparaissent complètement dans le cosmos. Cette transformation s'appuie en particulier sur un jeu avec la langue, la sonorité, la musicalité, et sur la référence, parfois ponctuelle, à un représentant de la poésie française contemporaine à Rilke, Paul Valéry. Rilke paraît plus ancré dans la vie terrestre avec l'utilisation de la langue française, moins saturée de références et de traditions que la langue allemande, qu'il utilise en tant que poète depuis bien longtemps déjà, et qui, tout en remettant en question ses références, ont une certaine difficulté à les dépasser. En effet, nous avons observé qu'il existe aussi des références à la tradition mythologique dans la poésie française, la disparition des dieux dans Gang. Mais en français, Rilke parvient à s'approprier cette référence et à la modifier ou à la varier tout à fait en transformant les dieux et en célébrant véritablement l'ici. Les différentes versions linguistiques de ces deux poèmes doubles soulignent donc un certain type de relation entre les deux langues, le renouvellement apporté par la langue française qui prolonge d'une certaine manière l'écriture en langue allemande et permet de célébrer l'ici, la nature, le présent. Il me semble que c'est une particularité spécifique de la poésie française, mais il faut noter aussi que ce n'est pas le seul type de relation et de dialogue qui existe entre les deux langues de la poésie tardive bilingue, ni par exemple entre les différentes versions linguistiques des cinq poèmes doubles. Car on a par exemple le poème Eros qui propose là vraiment un contre-exemple de ce que je viens de présenter. En effet, le dieu Eros, dans la version française, résiste aux caractéristiques de la poésie allemande de Rilke qui permettent de rendre les dieux présents absents, et c'est dans la version allemande qu'on a une célébration de l'ici. Donc on a une sorte de modèle inversé. Je ne vais pas en parler longuement, mais vous pourrez lire les poèmes et puis prolonger cette réflexion. Ainsi, on peut conclure en affirmant que chacune des langues a sa particularité et ses préférences, ce qui permet un véritable dialogue riche et complexe, qu'on ne peut pas réduire, donc, entre la poésie allemande et française de Rilke. On peut parler d'une poésie polyphonique avec une poétique complémentaire. Voilà, je vous remercie de votre attention.